C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. L'été que nous venons de traverser a été ponctué par des méga-feux, des sécheresses, des ouragans, des inondations. Et au moment où je vous parle, dans le nord-est de l'Inde, des centaines de milliers de personnes sont bloquées sur les toits de leurs maisons ou ont fui vers les hauteurs après de nouvelles pluies torrentielles. Aux États-Unis, après le sud, c'est l'est du pays qui subit les assauts de l'ouragan Ida. New York a les pieds dans l'eau, son maire a décrété l'état d'urgence, idem à Dakar ou dans le Sud-Soudan. Ces phénomènes ne sont que l'incarnation de ce que disent les scientifiques depuis des décennies. Les émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines dérèglent le climat de notre planète et nous allons le payer cher. Le contenu du premier chapitre du sixième rapport du GIEC qui vient d'être publié enfonce le clou. Le réchauffement climatique s'accélère plus vite que prévu et si nous ne réagissons pas rapidement, ces événements vont s'intensifier, notamment d'ailleurs sur le continent africain. Alors pourquoi la communauté humaine ne réagit-elle pas ? Le philosophe Dominique Bourg nous livrera son analyse dans un instant. Limiter nos émissions de gaz à effet de serre, c'est par exemple protéger la plus grande tourbière tropicale découverte entre les deux Congos. L'écologue Suspense Averti nous expliquera pourquoi. Heureusement, la société civile s'engage pour la préservation de l'environnement. Donner des droits à la nature fait partie des solutions. Explication dans cette émission avec la juriste Marine Calmet. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
C'est au festival Agir pour le vivant que nous avons rencontré nos invités. Il faut dire qu'il y avait le choix, plus d'une centaine d'intervenants de qualité réunis à Arles, dans le sud de la France, pour repenser notre manière d'habiter le monde. Un événement stimulant et enthousiasmant devenu désormais incontournable. Entre deux conférences, le philosophe Dominique Bourg m'a accordé cette interview. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour Anne-Cécile Brun.
Alors, nous sommes ici au Festival Agir pour le vivant. Après, nous sortons d'un été quand même où nous sommes entrés dans l'ère des méga-feux. On l'a vu, pas que les méga-feux.
En fait, depuis 2018, on a très clairement un climat qui a changé en termes d'événements extrêmes. Les événements extrêmes, c'est ce par quoi les gens peuvent prendre conscience de ce que signifie le dérèglement climatique. Et donc là, depuis 2018, en fait, on a deux saisons, grosso modo. On a une saison tiède, ça s'appelait l'hiver autrefois. On a une saison chaude, souvent très chaude. Et en fait, de mai, parfois même presque jusqu'à novembre, on a des vagues de chaleur qui se succèdent d'un endroit à l'autre. Mais il y en a toujours une pratiquement quelque part. Et parfois même, on a des vagues de chaleur, comme cet été, très intenses à plusieurs endroits à la fois. Et donc là, on voit vraiment, on ressent ce qu'est le dérèglement climatique de façon très, très directe. Et cette année, c'est terrible. C'est-à-dire cette année, de Lytton, près de Vancouver, jusqu'à je ne sais plus quelle ville en Sibérie, on a eu alors 48 degrés dans un cas, 49,6 dans l'autre. Enfin, c'est complètement fou. Moi, je vous rappelle de cette étude que Météo France avait publiée il y a 4-5 ans. On annonçait à la fin du siècle, toujours le même coup, à la fin du siècle, avec un scénario plutôt s'approchant des 4 degrés, des températures extrêmes en France qui pourraient aller dans l'est de la France de 50 à 55 degrés. Je suis désolé, mais on est à 1-2, et on est 70, même plus 80 ans avant, et on a en Europe des températures qui flirtent avec les 50 degrés. Donc ça, c'est quand même complètement... complètement étonnant. Et j'ajouterais à ça un des phénomènes les plus inquiétants en matière de réduction au sens propre de l'habitabilité de la Terre, c'est ce qu'on appelle le phénomène de la chaleur humide. C'est-à-dire quand vous associez chaleur et humidité, et si avec un certain degré de chaleur vous avez une humidité trop forte, ben vous ne pouvez plus faire fonctionner votre régulation thermique en faisant partir la chaleur par la transpiration. Donc là, votre température interne monte. Dans un premier temps, c'est des liaisons, et dans un deuxième temps, c'est la mort. Et donc, ce phénomène-là qu'on n'attendait pas avant la fin du siècle, moi, je me souviens des premiers papiers scientifiques que j'ai lus sur le sujet, c'est 2014, c'est quand même moins de 10 ans. Eh bien, en fait, ça s'est produit cette année, cet été 2016, dans une région du Pakistan et dans une région du Golfe Persique.
Donc aujourd'hui, on voit que tout s'accélère. Il y a eu la publication du premier chapitre du sixième rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat, qui lui tire aussi le signal d'alarme, de façon peut-être plus vigoureuse d'ailleurs que les rapports précédents. Après, ce n'est pas le rôle des scientifiques de faire du militantisme, mais de tirer...
Non, je pense que là, bon, évidemment, le GIEC, c'est fondamental, c'est une belle expérience, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Mais quand on regarde avec un peu de recul, en fait, nos amis scientifiques, ils ont vraiment un problème, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment archi nuls quand il s'agit de communiquer. Ils nous ont communiqué.
Ça dépend lesquels, quand même. Vous êtes un peu sévère. Il y a des Valérie Masson Delmotte, des Christophe Cassou, des.
Non, mais il y en a plein. Moi, je connais, alors, de manière beaucoup plus étroite, Jean Jouzel, Hervé Le Treut. On va avec eux publier, chez Frémaux, un livre entretien, justement, sur les questions du climat. Donc, moi, c'est moi qui joue mon Anne-Cécile. Hein. C'est moi qui suis l'intervieweur. Et évidemment, c'est eux qui possèdent le savoir sur le sujet. Mais non, je dis vraiment, tous sont vraiment très mal communiqués parce que c'est leur ethos de scientifique qui est contradictoire avec l'idée même de communication. Et ça, ils ne l'ont pas suffisamment anticipé d'une certaine manière. Le GIEC a communiqué quand même essentiellement sur deux éléments. D'une part, un élément en termes de température moyenne, donc c'est effectivement ce qui échappe à tous les sens. Bon. Et puis, un deuxième élément en termes de temporalité. C'est-à-dire, en général, on parlait de moyenne à la fin du siècle. Donc, si vous voulez faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas de problème avec le climat, je pense que c'était la communication optimale.
Le fameux plus de degrés d'ici 2100.
Ben voilà. Et puis, en général, quand ce par quoi, effectivement, les gens peuvent se rendre compte, les événements, pendant très longtemps, ils ont dit, mais on n'est pas sûr, etc. Attendez, il y a une chose qui est la construction d'un savoir sur des bases scientifiques, et autre chose, la communication qu'on peut faire avec ce savoir. C'est le très probable, machin, c'est pas forcément ce qui parle aux gens. En fait, si vous voulez, si j'applique un critère scientifique dans ma vie courante, c'est absurde, je ne fais plus rien, puisque même aller à mon boulot, j'ai une probabilité qui est forte. Enfin, la probabilité de ne pas y arriver n'est pas nulle, il peut se passer plein de choses, surtout par les temps qui courent. Et donc, dans ce cas-là, j'y vais pas, les amis. Non. C'est idiot. La communication et l'action, c'est une chose, le savoir, c'est une autre. Et donc là, non, je pense que maintenant, on peut revoir ça avec le recul. C'est facile, hein. Je parle ça de mon petit coin, là, et bien peinard, et avec le recul du temps. Mais en tout cas, ça, c'est intéressant, vu l'état de la planète, si on aura beaucoup d'occasions, si on aura beaucoup de leçons à tirer, hein, parce qu'en fait, il est un peu tard. Et puis, je pense qu'en termes de catastrophe majeure, on va être largement servi. Je ne sais pas si on aura d'autres après. Mais je dis bien, parce qu'il n'y a pas que les scientifiques qui sont en cause là-dedans, est extrêmement mal communiqué sur ces sujets. Ça, c'est très clair. Et là encore, il semblerait qu'il y ait eu des pressions, hein, on avait des fuites, et alors évidemment, le rapport, il est quand même pas alarmiste, c'est idiot, il est alarmant, parce que la réalité est alarmante. Mais il semblerait même que sur certains points, on est un peu raboté.
Alors le rapport du GIEC est alarmant, et la façon dont il a été reçu est aussi alarmante, d'un certain point de vue, parce que ça radicalise les positions.
Oui, alors je crois que la naïveté, c'était de croire que lorsque le dérèglement climatique deviendrait sensible, ce qu'il est, hein, de façon évidente depuis 2018, ce qu'il est, l'illusion, c'était de croire que les climato-sceptiques, ceux qui ne veulent rien entendre parce qu'ils sont attachés à l'ordre économique actuel, que ces gens-là allaient changer parce qu'ils allaient voir le danger. Mais enfin, écoutez, on habite un pays qui s'appelle la France, on a eu pas mal de collabos. Là, vous avez des collabos climatiques, des climato-collabos. Il y en a plein. Hein. C'est en général tous ceux qui sont attachés au marché, à l'ordre du marché, etc. Alors, ça peut être frontal. Hein, quand le Figaro publie deux tribunes de climato-sceptiques, c'est tout à fait frontal. Quand les Républicains français font preuve d'une imbécilité à peu près à l'aune de celle de leurs homologues américains, c'est relativement frontal. Mais on peut faire ça de manière beaucoup plus hypocrite à la Macron, par exemple. C'est-à-dire dire et ne rien faire, ou même au contraire, grignoter tout ce qui est environnement, sans le dire même à ses électeurs. Donc voilà, il y a plein de manières d'organiser en fait le refus, le rejet, l'inaction. Il y a des modalités très différentes.
Et donc aujourd'hui, vous travaillez sur plusieurs projets, puisque vous êtes foisonnant, vous avez plein de livres qui vont paraître, etc. Mais vous travaillez notamment sur un projet pour former des bâtisseurs de la nouvelle civilisation. On en est là pour vous, on va devoir changer de civilisation.
Ah oui, alors ça c'est archi clair, et ce que je trouve intéressant, c'est que, c'est pas moi qui vous le dis désormais, ce sont les grandes agences. Par exemple, le rapport de l'Agence européenne de l'environnement qui nous disait en janvier que, eh bien, effectivement, oui, il faut un découplage absolu, et c'est très clair, il faut produire beaucoup moins d'objets, aménager beaucoup moins l'infrastructure. D'aucuns parleraient de décroissance. C'est exactement ce que signifie la décroissance. Là, récemment, une autre instance européenne nous a dit ben « Non, il faut abandonner le PIB. Si on veut le garder comme indicateur, c'est un indicateur marginal. Mais en aucun cas, ça ne peut être un guide des politiques publiques, puisque c'est au contraire l'indicateur de la destruction de l'environnement. » C'est sympa de continuer, au moins c'est clair. Même le Conseil d'État en France, quand on voit le Conseil constitutionnel, bouger sur ces questions-là. Et quand on voit un Conseil d'État qui amende le gouvernement et qui lui demande d'ici avril de dire comment il va atteindre ces moins 40%, c'est quand même vraiment intéressant.
Moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre.
Et d'émissions directes, hein, attention, on est loin du compte. Hein, si on voulait être raisonnable, on prend l'ensemble des émissions sur un territoire et pas simplement la consommation d'énergie directe, alors que pour un Français, pratiquement la moitié de ses émissions, au moins un tiers, c'est sûr, c'est des émissions importées. Donc on ne les prend pas en compte, c'est complètement absurde. Mais bon, on a eu la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, on a eu la Cour suprême hollandaise, la Cour suprême australienne, une Cour ordinaire hollandaise qui a condamné la compagnie Shell et dans tous ces lieux d'exploitation de réduire d'ici à 2030 de 45% ses émissions. Enfin, voilà, on a un certain nombre d'instances, même l'Agence internationale de l'énergie, qui nous a dit il y a quelques mois qu'il fallait dès maintenant stopper toute exploitation d'hydrocarbures nouveaux. Enfin, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous a dit l'inverse, et ce n'est pas une critique, hein, qui nous a dit l'inverse pendant des décennies. Donc on est dans une situation très paradoxale. On a une petite part des élites, et en fait, et moins elles ont les mains directement liées aux manettes, et plus elles ont compris, et plus elles nous disent ça. Grosso modo, pas partout, mais grosso modo, des gouvernements qui ne font rien, quand ils ne sont pas comme Morrison ou Trump autrefois, complètement climato-négationnistes. Des populations assez ambivalentes, une grande partie qui ne veut pas bouger, une partie qui s'angoisse, mais qui va sans doute pas, qui n'accepterait pas des propositions un peu fermes pour arriver à des résultats. Donc on est dans une position tout à fait paradoxale. Et je ne vois pas d'autre image, si vous voulez, d'autre préfiguration de cette situation que la réaction dans les livres de l'Exode, donc dans la Bible, de Pharaon aux signaux que lui envoie Dieu. À chaque fois qu'il lui envoie un signal plus dur, les fameuses plaies d'Égypte, il est d'autant plus renforcé dans sa détermination de rien vouloir entendre. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, et c'est assez terrible quand même.
Alors comment on sort de tout ça? Est-ce que c'est par la culture, par l'éducation, par le retour à la terre, pour ceux qui s'en sont éloignés, par un mélange des deux?
Eh bien, en fait, si vous voulez, il y a plusieurs échelles. Si on voulait vraiment s'en sortir, il n'y a que l'échelle politique. Puisque là, il faut, pour s'en sortir, il faut vraiment bouleverser les grands indicateurs, il faut bouger les grandes courbes, et ça ne se fait que par de la régulation, que par de la loi.
Comme une fiscalité carbone, taxer ce qui pollue le plus.
Dans Retour sur Terre, c'était carrément des quotas de consommation, d'ailleurs. Ça serait pour faire ce que dit l'Agence européenne de l'énergie, c'est-à-dire produire moins, consommer moins, il n'y a pas d'autre solution, c'est la seule.
Et en plus, un quota d'émissions par personne?
Alors, pas d'émissions, carrément, si vous voulez. En fait, quand vous payez un bien, vous avez toujours deux monnaies. Vous avez une monnaie pécuniaire classique, et puis vous avez une monnaie en unité de charge écologique. Alors avec un compte pour la vie et un compte annuel. Pour les dépenses courantes, c'est plutôt un compte annuel. Pour des dépenses comme l'immobilier, comme l'automobile tant qu'elle existera encore, etc., ou des voyages en avion, voilà, là on est plutôt sur un quota de vie. Et puis, donc, eh bien, de même que vous dépensez de la monnaie, eh bien là, vous défalquez de votre carte un certain nombre d'unités de charge écologique quand vous achetez un bien. Et donc, du coup, vous faites très attention. Je donne toujours cet exemple, il est un peu idiot, mais des tomates consommées l'hiver, produites sous serre et amenées en avion, je veux dire, en plus, elles sont dégueulasses, elles détruisent tout, et puis elles sont, passez-moi l'expression, mais pétées de carbone. Si vous consommez des tomates produites de façon permacole, à proximité, amenées, allons, soyons gentils, même à vélo électrique, il est peut-être même possible qu'on vous redistribue quelques unités de charge écologique, parce que vous avez contribué à restaurer la faune, à restaurer les sols, la microfaune des sols, etc. Donc voilà, ça on y arriverait. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se faire. Ça ne se fait qu'avec l'accord des citoyens. On en est encore très loin.
Ça veut dire quoi? Chacun aurait pour sa vie une quantité d'unités de charge écologique à disposition?
Pour les grands biens, pour la vie, mais pour les achats courants, pour l'année. Ben, ça serait la même chose que la monnaie, mais sauf que c'est l'unité de charge écologique et c'est pas une monnaie spéculative.
Ça ne dépendrait pas de ses conditions de vie, de ses revenus?
Ah ben, si, c'est-à-dire, par exemple, si vous êtes médecin, il est clair que vous allez avoir peut-être un petit quota carbone un peu plus important. Voilà. Mais en revanche, ça ne va pas toucher ce que vous allez manger. Si vous voulez, bien sûr, le système est un peu complexe, c'est-à-dire qu'en fonction des professions, il y a sans doute une carte professionnelle qui doit s'ajouter à la carte individuelle. C'est assez compliqué, mais on peut le mettre assez rapidement en place. On pourrait d'ailleurs le mettre en place de manière expérimentale et à blanc. Montrer aux gens, pendant une année, ce que ça signifie. Puis ils verraient ce qu'ils ont fait et ce qu'ils auraient pu faire si la mesure avait été appliquée. Puis ensuite, elle s'applique de façon progressive. C'est-à-dire qu'effectivement, le quota, la première année, la mise en système est très proche de ce que vous avez fait. Et puis l'année suivante, c'est un peu moins proche, un peu moins proche, un peu moins proche. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses. En attendant, effectivement, on voit très bien que vous avez des initiatives qui se construisent partout. Et donc, effectivement, cette idée d'université paysanne avec, au départ, c'est Philippe Desbrosses qui est à l'origine de ça. Et puis, nous nous sommes associés avec l'université de Tours et avec la fondation genevoise, Zoeigne, que préside et qu'a créé Sophie Smaton. Et là, l'idée, c'est, il y a déjà une école de maraîchage permacole à la ferme de Billancay de Philippe. Et là, on va monter un DU, dans un premier temps, un diplôme universitaire, donc avec trois modules si vous voulez, théorique, un module pratique, c'est-à-dire que les gens, bah, de mars à novembre, vont cultiver et faire des petits élevages. Et donc, à la fois, on apprend à devenir paysan, mais en même temps, on devient paysan philosophe. C'est-à-dire que notre idée, c'est d'aider à ce que des gens auto-construisent leur rôle de bâtisseur de civilisation. Et par exemple, effectivement, être paysan aujourd'hui et puis pas savoir que le néolithique, c'est quand même un peu le patriarcat, même pas plus qu'un peu. Bon, c'est quand même assez gênant. Donc, être paysan aujourd'hui sans revenir là-dessus, sans réfléchir sur la relation aux plantes, qu'est-ce que c'est qu'une relation de non-domination, etc. Tout ça, c'est ces cours qui vont inviter ces gens à reprendre tout ça pour former une nouvelle civilisation avec des paysannes et des paysans savants à tous les plans, pratiques, théoriques et porteurs d'un message de civilisation différent.
Et ça, c'est exaltant. Et c'est vrai que des initiatives comme celle-là, il y en a dans de nombreux endroits.
Il y en aura plein. Donc, notre idée aussi, c'est d'emmailler certaines. Une idée est bonne lorsqu'elle ne germe pas qu'un seul endroit. Donc, nous, on ne prétend pas faire un truc absolument génial. On s'en fout. Que d'autres fassent mieux que nous, mais génial. Allons-y, les amis. Plus nous essaierons de faire des choses nouvelles de ce type-là, et mieux nous nous porterons les autres vivants avec nous.
Ce sera le mot de la fin. Merci Dominique Bourg.
Merci Anne-Cécile.
C'est pas du vent sur RFI.
Soleil, Sun, avec le Martiniquais JM Harmonie dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent. Pour nous écrire, c'est pas du vent, @rfi.fr.
Face à l'accélération du réchauffement climatique établie par les scientifiques, nous devons arrêter d'exploiter les énergies fossiles responsables de 80% de nos émissions de gaz à effet de serre. Un message difficile à faire accepter. Il suffit d'observer comment le gouvernement de Joe Biden est contraint d'ouvrir à nouveau les enchères pour l'exploitation d'une immense zone marine dans le golfe du Mexique, ou de voir à quel point les découvertes des gisements pétroliers et gaziers au large de la Mauritanie, du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire aiguisent les appétits. Dans ce contexte, il y a des raisons de s'inquiéter du sort qui sera réservé à la plus grande tourbière tropicale qui s'étale sur 167 000 km² entre les deux Congos. Suspense averti, professeur d'écologie forestière à l'université Marianne Gouabi de Brazzaville nous explique pourquoi.
En 2014, je dirais même avant déjà, les contacts que j'avais avec le professeur Simon Lewis, nous avions commencé à échanger ensemble sur la possibilité de pouvoir réaliser des missions de recherche dans le nord du Congo, parce qu'il avait déjà soupçonné l'existence des essences tropicales qui caractérisaient la présence de la tourbe. Et donc, il a envoyé donc au Congo une de ses étudiantes à l'époque, qui est devenue aujourd'hui docteur d'Argie. Avec cette équipe-là, ils sont venus au Congo et où plusieurs missions ont été réalisées dans le nord du Congo dans le cadre de ces travaux de recherche qui ont abouti 3 ans plus tard à la publication dans la revue Nature de cette information qui a fait comme un boom et qui faisait mention de l'existence dans le bassin du Congo du plus grand bloc unique de tourbe tropicale.
Alors, c'est quoi une tourbière ?
La tourbière, c'est une zone qui regorge de la tourbe. Et la tourbe, en langage simple, on pourrait dire, c'est un type de sol, mais qui cette fois-ci est très très riche en matière organique. La définition varie suivant les institutions, suivant les spécialistes et autres, mais dans notre équipe de recherche, on s'est accordé pour retenir que la tourbe, c'est un sol organique, très riche en matière organique, et donc le pourcentage sinon avoisine les 70%.
Et alors, c'est le résultat de quelle évolution naturelle ?
Oui, la tourbe ne se développe pas n'importe où. Il faut un environnement particulier. Et dans le cas d'espèce, ce qui est intéressant, c'est que cette tourbière, elle a été découverte dans une zone où, sur le plan climatique, c'est su de tout le monde qu'il fait extrêmement chaud. Alors que pendant longtemps, et dans les livres, on sait que la tourbe, sinon les tourbes existent dans les pays du Nord, nordiques, Scandinavie, Suède, là-bas, Canada et autres. Mais là, nous sommes en zone tropicale. Et qu'est-ce qui a conduit donc à la fabrication de cette tourbe ? Cette matière organique a une origine, c'est d'abord l'ensemble de la végétation qui s'est développée pendant des millénaires dans cette zone du bassin du Congo. C'est la première condition, il faut décliner la matière organique. La deuxième condition, ça a été l'existence de cette dépression-là, comme cette petite cuvette. Et la troisième condition, c'est donc l'existence de l'eau. Et au sujet de l'eau, cette eau qu'on a retrouvée dans la zone de la tourbière ne provient pas principalement du fleuve Congo. Cette eau ne provient pas du sous-sol, du souterrain, mais cette eau provient plutôt des pluies. Alors, la matière organique qui se trouve piégée dans cette eau-là, voit sa décomposition être vraiment ralentie, au lieu que cette matière organique puisse s'oxyder, mais la matière organique plutôt va se décomposer de façon très très lente au point de former cette pâte organique qui va donner avec le temps l'existence de la fabrication de la tourbe.
Est-ce qu'on sait combien de temps il a fallu pour que cette énorme tourbière se fabrique ?
On estime environ 11 000 ans.
Alors, cette tourbière, du coup, est à cheval sur les deux Congos. C'est donc, on le disait, la plus vaste zone de tourbière tropicale de la planète en un seul bloc. C'est important. Quelle est sa superficie ?
Alors, elle est estimée à environ 167 000 km² entre les deux Congos, la République démocratique du Congo et la République du Congo.
Alors, c'est une vraie bombe à retardement, cette tourbière, puisque ces entrailles marécageuses, on pourrait dire, renfermerait plus de 30 milliards de tonnes de CO2. C'est bien cela. Si c'est cela, c'est énorme. C'est l'équivalent de 3 années d'émissions de CO2 mondiales ou l'équivalent de 20 ans d'émissions des États-Unis.
En effet, madame, c'est exactement cela, oui.
Donc, l'enjeu, c'est évidemment d'essayer de préserver cette tourbière.
L'enjeu aujourd'hui, c'est de préserver ce stock important de carbone. C'est d'attirer l'attention des organismes internationaux, des ONG, de toute la planète, des décideurs politiques au niveau international, que les gens puissent être préoccupés et voir avec les scientifiques, les spécialistes en aménagement, en conservation, comment faire pour trouver les pistes qui vont permettre de conserver cette tourbière-là, sinon d'aller vers une gestion durable de cet environnement.
Oui, parce que les deux pays, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, ont signé la déclaration de Brazzaville en 2018, dans laquelle ils s'engagent à préserver cette tourbière. Bon, cela dit, les appétits s'aiguisent un petit peu. Il y a des prospections qui sont faites parce qu'il y aurait du pétrole dans cette zone, beaucoup de pétrole. Donc, comment imaginer, alors qu'en plus, le pétrole offshore commence un petit peu à baisser, notamment au Congo-Brazzaville. Donc, il peut y avoir des envies d'aller prospecter, ce qui se fait d'ailleurs actuellement dans certaines zones, et d'exploiter le pétrole et donc cette tourbière, et que ce CO2 stocké soit relâché, ce qui serait dramatique.
Oui, nous, en tant que scientifiques, nous avions contribué à mettre en valeur l'existence de cette tourbière-là. Et jusqu'à présent, il y a eu un engagement au niveau politique. Vous avez souligné l'engagement des deux pays qui se sont accordés. Et il y a eu donc la signature de la déclaration de Brazzaville. Au niveau de la République du Congo, les ministères clés qui sont associés à la tourbière participent régulièrement à des réflexions, comment faire pour conserver cette tourbière-là. Et au niveau politique, d'après ce que nous voyons bien, il y a un engagement très très fort donné par le président de la République du Congo qui, à plusieurs occasions, n'a pas manqué d'inviter la communauté internationale de venir dans le bassin du Congo et au Congo et participer à cette réflexion qui aboutira à la conservation de cette tourbière.
Du côté de la République démocratique du Congo, il y a quand même un assèchement qui a été envisagé. Il y a une vingtaine de concessions qui ont été accordées pour une exploitation forestière ou des prospections pétrolières. Ça ne va pas tellement dans le sens de la conservation, ça.
Oui, d'après ce qui se présente, on pourrait dire que ça ne va pas dans le sens de la conservation. Mais je dirais que ça peut être aussi un moyen de pouvoir peut-être autrement sensibiliser la communauté internationale sur le fait qu'un pays doit vivre, un pays doit fonctionner. Le pays a besoin d'avoir, on va dire, des fonds pour alimenter son budget de fonctionnement et autres. Et jusqu'à preuve de contraire, nous pouvons considérer cela comme étant une invitation qui est adressée à la communauté internationale pour que cette communauté internationale soit un peu plus sensible et regarde cette question environnementale très importante, parce que nous disons tous que c'est une véritable bombe à retardement. Et donc, je pourrais dire, pour ce qui est la RDC, que jusqu'à preuve de contraire, c'est un pays souverain, oui, mais qui est conscient de ses engagements sur le plan environnemental.
L'idée serait peut-être d'essayer de trouver un arrangement pour que la communauté internationale accompagne financièrement ces pays pour leur effort de non-exploitation de la tourbière.
Oui, je suis profondément convaincu que c'est le fond de la question. À travers toutes les déclarations qui sont faites, l'idée, c'est de pouvoir alerter la communauté internationale sur la notion de la compensation. Si nous sommes tous d'accord sur le fait que le bassin du Congo regorge cet important stock de carbone, alors il serait aussi important que la communauté internationale assiste à ces pays qui ont assurément beaucoup de besoins, qui ont assurément un agenda intérieur à pouvoir obtenir des fonds, des capitaux qui leur permettraient, mais en compensation, s'ils n'exploitent pas cette tourbière, d'avoir des fonds qui permettraient de pouvoir faire face à leur programme de développement à l'intérieur de ces différents pays.
Cette tourbière est très isolée, mais il y a des populations qui vivent autour.
Dans l'aire géographique de la tourbière, principalement pour la République du Congo, que je connais assez bien, on retrouve beaucoup de campements, beaucoup de villages. Il y a une population qui habite et qui réside depuis des dizaines d'années.
Alors des pêcheurs, j'imagine, des chasseurs.
Oui, il faut dire que dans la Tourbière, c'est une zone très très riche en biodiversité, tant sur le plan animal que sur le plan végétal, comme on dit la faune, la flore, très très riche. Et donc les populations locales, surtout pendant la période de la saison sèche, vont dans ces zones-là de tourbière pour la pêche et pour la sèche, parce que lorsque l'eau se retire, il y a des poches d'eau et autres qui continuent à conserver de l'eau et donc contiennent un stock non négligeable de poissons que ces populations pêchent donc pour satisfaire à leurs besoins.
Donc il faudrait associer les populations locales évidemment à la conservation de cette tourbière, c'est tout un travail. Est-ce qu'il y a des personnes qui commencent à s'intéresser à cette dimension déjà aujourd'hui ou on est au tout début ?
Nous faisons partie dans notre équipe de recherche, nous avons cette philosophie et nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre non seulement des populations, mais lorsqu'il est question de réfléchir sur la conservation, il faut associer ces populations locales. Et déjà sur le terrain, il faut dire qu'il y a aussi assurément un travail de sensibilisation à faire parce que ces populations ne sont pas conscientes qu'elles vivent dans un écosystème qui fait l'objet de plusieurs conférences au niveau international.
Merci beaucoup.
Merci madame. Merci beaucoup pour l'interview.
Et l'African Jazz dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent.
On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, c'est ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces. On en empile toujours une de plus dessus et puis en fait, elle commence un petit peu à être sur le côté. Et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Et ça, c'est un point de basculement qui fait qu'on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
Pour nous écrire, cestpasduvent@rfi.fr.
Et si la nature avait des droits ? Cette idée prend de l'ampleur pour défendre certains écosystèmes face aux appétits d'industriels peu scrupuleux ou de décideurs politiques, disons, peu concernés par la préservation de l'environnement. Sur tous les continents, le recours juridique se déploie. Marine Calmet est juriste. Elle a fondé en 2019 le programme Wild Legal pour inciter justement des juristes, des étudiants et des citoyens comme vous et moi à élaborer ce nouveau droit de la nature.
Donc l'association Wild Legal, c'est une association que nous avons fondée en 2019 en partant de l'idée de créer une école, mais aussi un incubateur pour la reconnaissance des droits de la nature et du crime d'écocide. Donc nous formons des nouvelles générations d'étudiants en droit, mais aussi tout le public à ces nouveaux outils juridiques pour leur permettre justement de grandir en France et d'aboutir, je l'espère, à une grande loi pour les droits de la nature et le crime d'écocide.
Parce que la voie juridique pour défendre les droits de la nature est en train de monter. On le voit à travers de nombreuses formes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça bouge dans ce milieu-là ?
Alors, ça bouge beaucoup. On est aujourd'hui plus d'une quinzaine d'associations en France qui travaillent activement à la reconnaissance de divers écosystèmes. Avec l'association Wild Legal, on travaille sur la reconnaissance des droits du fleuve Maroni avec des partenaires en Guyane française, puisque c'est un fleuve qui est affecté par l'orpaillage illégal, donc les chercheurs d'or qui détruisent les cours d'eau et la forêt de Guyane. Et puis en France, on a diverses initiatives, le Parlement de Loire, l'Appel du Rhône et d'autres écosystèmes qui ont trouvé des gardiens qui aujourd'hui s'investissent pour activement obtenir la reconnaissance de leurs droits.
Parce qu'il y a des pays qui ont déjà donné un statut légal à leurs fleuves.
Oui, et même depuis assez longtemps d'ailleurs, puisqu'on a fêté déjà il y a 2 ans les 10 ans de l'introduction des droits de la nature dans la constitution de l'Équateur, par exemple. Mais il y a aussi la Nouvelle-Zélande, l'Inde, l'Australie, et puis plus récemment encore le Canada. Et donc, en fait, à différents échelons dans les territoires, que ce soit au niveau constitutionnel, au niveau des lois, au niveau des décisions, même municipales parfois, il y a des États et des collectivités qui s'engagent pour reconnaître et doter de droits propres des écosystèmes.
Alors, prenons un exemple de votre choix, hein. Est-ce qu'on parle de plutôt l'Inde avec le Gange ou de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande, mais qu'est-ce que ça donne en fait ces fleuves qui ont un statut juridique ?
Alors, une des décisions que j'aime beaucoup, c'est celle qui a eu lieu en Colombie il y a quelques années, où justement des populations impactées par leur péage illégal sont allées en justice parce qu'elles étaient arrivées à une situation où dans ce cercle vicieux, leur environnement était tellement dégradé qu'elles ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Et donc, elles étaient elles aussi devenues des orpailleurs. Et finalement, face à cette situation de crise, ils ont saisi le juge et le juge leur a donné raison, d'une part parce qu'il y avait la violation de leurs droits à eux en tant que peuple à vivre dans un environnement sain, mais le juge a aussi reconnu les droits fondamentaux du fleuve, l'obligation pour l'État de garantir ces droits fondamentaux, donc notamment la préservation de ses cycles vitaux, et a aujourd'hui ordonné à l'État de Colombie de constituer un conseil des gardiens. Et donc, ils sont regroupés sous la forme d'un conseil qui comporte 14 gardiens élus par les communautés qui travaillent activement à l'élaboration de politiques publiques, sanitaires, économiques, écologiques. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un très bon exemple pour expliquer que les droits de la nature, ce n'est pas simplement un nouveau moyen technique de protéger l'environnement, c'est clairement aussi un outil démocratique pour récupérer la gouvernance dans nos territoires.
Alors, on voit de plus en plus le recours juridique venir au service de l'environnement. Enfin, ça fait longtemps, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de collectifs qui se saisissent de cette voie juridique. Je pense notamment à tous les procès qui ont été faits soit à des États, soit à des villes pour inaction climatique. Je crois qu'il y a actuellement plus de 1700 procès en cours. Certains ont été gagnés, certains ont vraiment secoué un peu les consciences. Je pense à ce qui s'est passé aux Pays-Bas, mais récemment, une entreprise pétrolière, Shell, a été obligée de réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans un délai assez court et de beaucoup. C'est grâce à un recours juridique qui a condamné cette entreprise. C'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur. Pourquoi, à votre avis ? Parce que c'est les lois qui sont en train de se modifier, de s'adapter sous la pression des citoyens ?
Bizarrement, mon interprétation serait plutôt que c'est enfin le juge qui commence à s'acculturer de ces questions de justice écologique et climatique. Parce qu'en fait, jusqu'ici, la question scientifique, la compréhension par le juge et l'utilisation de ces normes étaient très mauvaises. C'est-à-dire que dans beaucoup de dossiers, par exemple en Guyane française, sur les forages pétroliers de Total, nous n'avions pas obtenu justice, alors même qu'on était dans une zone de très forte densité en matière de biodiversité, des requins, des baleines, des dauphins, et on avait un impact climatique qui était indéniable, c'est-à-dire un bilan carbone de l'opération, mais qui est monstrueux au regard du bilan carbone de la Guyane. Et pour autant, aujourd'hui, le juge est en train de changer. Et on l'a vu, et je suis très contente d'ailleurs, dans une décision de juillet 2021, donc de juillet dernier, où justement le projet de l'État français était de construire une centrale aux énergies fossiles près de Cayenne. Et le juge a suspendu, justement, préventivement, l'arrêté qui prévoyait la construction de cette centrale. Pourquoi ? Parce qu'il a jugé qu'une centrale aujourd'hui qui fonctionne au fioul ne met pas, en fait, le territoire dans la bonne stratégie climatique et l'empêchera de respecter les engagements en matière de neutralité carbone. Et donc, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on voit que désormais, le juge utilise la justice climatique pour s'opposer au projet polluant, ce qui est honnêtement une première.
Donc ça veut dire qu'il faut former les juges ?
Il faut former les juges, il faut former les avocats. C'est aussi pour ça qu'avec l'association Wild Legal, on travaille beaucoup avec des professionnels ou des jeunes professionnels qui souhaitent justement utiliser des moyens nouveaux comme les droits de la nature, l'écocide, dans leur manière de travailler, dans la manière de l'appliquer. Et on travaille aussi avec des magistrats. À l'occasion de nos procès simulés, on a eu la chance justement d'accueillir M. Vincent Delbos, qui est un magistrat aujourd'hui à la retraite, mais qui est aussi l'auteur du rapport sur la justice écologique et qui nous a beaucoup soutenus dans notre combat pour la reconnaissance du crime d'écocide.
Alors, qu'est-ce que c'est que les procès simulés ?
Les procès simulés qui sont organisés par l'association Wild Legal, ce sont en fait des fenêtres ouvertes sur notre avenir, c'est-à-dire nous essayons de montrer ce qui pourrait être les changements vécus par notre société si nous reconnaissions des droits fondamentaux à des écosystèmes. Donc, nous avons organisé un procès simulé plaidant pour la reconnaissance des droits du fleuve Maroni, pour montrer justement que comme en Colombie, nous aussi en France, nous pourrions accéder justement à de nouvelles jurisprudences qui émanciperaient à la fois les peuples, mais aussi le vivant. Et nous avons fait l'année dernière un procès simulé dans le cadre de la pollution historique des Calanques de Marseille, la pollution au bout rouge du Gardanne, pour démontrer l'impact qu'aurait la reconnaissance d'un crime d'écocide dans le droit français pour faire face à des pollutions et des pollueurs qu'on n'a pas réussi à poursuivre encore jusqu'aujourd'hui.
Faut peut-être expliquer ce que c'est que le crime d'écocide.
Donc le crime d'écocide aujourd'hui est un crime qui vient du droit international puisque à la suite en fait de la guerre du Vietnam, des juristes internationaux mais pas que aussi des biologistes, des scientifiques ont dit mais plus jamais ça. Plus jamais ça. Et donc, comment on fait pour se prémunir en droit international de ce genre de situation ? Et donc, c'est à ce moment-là que, un peu aussi en parallèle de termes comme le génocide, on a voulu faire prendre conscience de l'importance de pouvoir sanctionner les atteintes commises contre la nature. Parce que le droit international n'appréhendait la destruction de la nature que sous l'angle des crimes de guerre. Et donc, il fallait un crime commis en temps de paix contre la nature. Aussi dans l'idée de protéger évidemment les populations locales, puisque les premières victimes évidemment de la destruction de la nature au Vietnam et comme ailleurs, souvent ce sont les populations qui dépendent de ces écosystèmes.
Alors vous êtes beaucoup mobilisée en Guyane contre le projet Montagne d'Or, qui était une mine d'or qui allait polluer massivement et pour très longtemps l'environnement guyanais. On en est où aujourd'hui là-bas ?
En fait, au sein du collectif Hors de Question, effectivement, nous avons réussi avec les jeunesses autochtones de Guyane et d'autres mouvements de Guyane à faire vraiment une émulsion collective et un peu la bascule aussi grâce aux médias pour nous faire entendre. Et donc, Emmanuel Macron a dû annoncer publiquement que le projet ne se ferait pas parce qu'il n'était pas conforme aux exigences biologiques. Donc, effectivement, on parle de 127 espèces protégées, de 470 000 litres d'eau par heure, d'un territoire qui serait profondément morcelé et endommagé par ce projet sur une très longue durée. Et donc, évidemment, qui ne y contrevient aux exigences biologiques qu'on devrait se fixer et aux standards qui devraient être les nôtres en France. Malheureusement, la justice a donné raison récemment à la compagnie Montagne d'Or qui a attaqué la France pour, mine de rien, obtenir la prolongation de sa concession minière. Donc aujourd'hui, la justice a fait une clé de bras finalement au gouvernement et dit qu'il fallait attribuer une concession minière avec le droit existant. C'était l'obligation de l'État de le faire. En gros, le projet est encore dans les tuyaux. Nous espérons évidemment qu'il ne passe pas les prochaines étapes, qui seraient en fait le dépôt d'une demande de permis d'exploiter le site. Et pour cela, évidemment, il y aurait tout un tas de raisons qui devraient être utilisées par le gouvernement, on l'espère, notamment la présence d'espèces protégées qui devraient résister, je l'espère en tant que juriste, à la pression exercée par l'industriel.
Ce que vous expliquez dans votre livre « Devenir gardien de la nature » qui est publié chez Tana, c'est que oui, il y a toute cette dimension juridique qui peut sembler, même pour les gens qui nous écoutent, un peu complexe. On se dit « bon, c'est un des débats de spécialistes », mais en fait, le citoyen peut, à son niveau, devenir gardien de la nature.
Oui, alors tout à fait. Ce que j'ai voulu transmettre à travers ce livre, c'est l'histoire, un récit collectif, cette aventure qui, avec les militants en Guyane, nous a amenés aussi à avoir un véritable engagement sur notre territoire. Nous avions tous des profils différents. Moi, je suis peut-être juriste, mais autour de moi, il y avait un postier à la retraite, quelqu'un qui travaille dans le monde de l'édition, une professeure de shiatsu. C'est des profils extrêmement différents. Et au contraire, ce que je voulais raconter, c'est qu'il n'y a pas de bon profil. Nous sommes tous, parce que nous sommes attachés à nos territoires, de potentiels gardiens de la nature. Et pour ça, je raconte un cheminement personnel parce que je crois qu'on ne naît pas gardien de la nature, on le devient, on apprend à l'aimer, on apprend à la protéger, la nature. Et donc, c'est pour moi tout un tas d'étapes que l'on peut traverser, apprendre, découvrir ce qu'est la biodiversité, le fonctionnement de nos écosystèmes, se décoloniser aussi de nos a priori, c'est-à-dire que l'homme serait maître et possesseur de la nature. Hein. C'est notre imaginaire collectif qui nous raconte ça. L'homme domine les autres espèces. Et bien, prendre conscience que notre place n'est pas justement au sommet de cette pyramide du vivant, mais au sein d'un cercle de la communauté du vivant, et ensuite, évidemment, s'engager de diverses manières. Je pense que ce n'est pas utile aujourd'hui de faire une longue liste des différentes manières qui existent de s'engager. Je veux que, justement, mon livre crée une interrogation. Qu'est-ce que moi, je peux faire à mon échelle? Quel écosystème puis-je protéger? Quelle espèce puis-je protéger? De qui serais-je le gardien? Et j'espère donc avoir essayé d'allumer cette petite flamme qui nous donne envie à tous de protéger la nature, parce que je crois qu'aujourd'hui, justement, la question est éminemment politique, de récupérer justement ce pouvoir d'action sur la nature face à l'inconséquence des différents gouvernements qui se sont succédés, face à l'urgence dans laquelle on est aujourd'hui. Eh bien, les citoyens doivent récupérer le pouvoir, doivent récupérer une tutelle sur la nature pour en devenir des gardiens qui prennent des décisions dans son meilleur intérêt.
Alors, c'est la logique d'une campagne qui vient d'être lancée sur les réseaux sociaux et à laquelle vous participez.
Oui, tout à fait. Donc, c'est la campagne qui a été lancée donc, le 2 septembre par On est prêt. C'est une campagne de mobilisation donc, autour de la 6e extinction de masse, avec un focus donc, sur les animaux menacés en France métropolitaine. Et donc, pendant plusieurs semaines, On est prêt donnera des clés d'action concrètes pour devenir gardien de la nature. Et l'objectif, donc, c'est d'alerter massivement, d'apprendre à se réémerveiller du vivant et à participer au réensauvagement en finançant notamment donc, des infrastructures de soins pour des animaux et aussi récupérer des terres pour leur permettre de vivre.
Et là, c'est une campagne qui est lancée en France, mais c'est évidemment possible dans tous les pays du monde. Merci beaucoup, Marine Calmet.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, « Devenir gardien de la nature », c'est publié aux éditions Tana. En conclusion de cette émission, j'aimerais vous citer les propos d'un grand scientifique, Albert Einstein, qui avait anticipé la crise de civilisation que nous traversons. Il a écrit « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». La profusion des moyens est une bonne nouvelle. Nous avons la capacité de réagir face à l'accélération des conséquences du changement climatique et de la disparition de la biodiversité. Mais attention à la confusion des intentions. Je vous laisse méditer ces propos. La semaine prochaine, nous serons à Marseille, dans le sud de la France, au Congrès mondial de la nature organisé par l'UICN. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et rendez-vous donc jeudi prochain, même planète, même heure.